Que ve això tinc de
gerar. Digo de Radio France Internacional.
Non, disse eco, sire.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction brésilienne, Lucia Mouzel.
Bonne nuit.
Car le nouveau président brésilien assouplit les règles pour détenir une arme à feu. Alireza Manavzadeh, de la rédaction Persane.
Toulouse Barchement.
À propos des 40 ans du changement de régime en Iran. Et puis Asbel Lopez, de la rédaction espagnole.
Bonne nuit.
Car l'opposition prépare une importante manifestation au Venezuela. Bonsoir à vous tous. Avant tout cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine en France, à savoir le lancement du grand débat national pour répondre au mécontentement qui s'est exprimé avec le mouvement des Gilets jaunes. Pour ce faire, le président de la République est allé à la rencontre de ceux qui sont en première ligne avec les Français, les maires. Il s'est donc adressé à eux mardi et encore ce vendredi, et rien ne dit qu'il ne se livrera pas à cet exercice une autre fois. À chaque fois, en tout cas, Emmanuel Macron a parlé des heures durant à des dizaines d'élus locaux, au milieu d'eux, dans une mise en scène qui pouvait rappeler les meetings électoraux qu'il menait alors qu'il était alors donc en campagne pour le scrutin présidentiel. Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne, donc votre rédaction a bien sûr été très attentive à ce véritable marathon politique.
Oui, tout à fait, c'était sportif, hein, Philippe, mais notre collègue Adriana Moisés a réussi à bien le suivre mardi. Elle a déjà commencé son article d'ailleurs en disant que le président français a mouillé sa chemise, car nous avons aussi cette expression au Brésil qui est parfaite pour le contexte. Dans son article, donc, elle explique que Macron a mouillé sa chemise pour essayer de finir avec cette crise des gilets jaunes, avec un franc-parler qui le caractérise, pardon. Macron a exhibé une énergie sans limite pour convaincre et il était temps, après 2 mois de contestation dans les rues, il s'est forgé cette opportunité de renaître de ses cendres avec cette ouverture à une forme plus horizontale de démocratie. Reste maintenant à savoir s'il va vraiment écouter les demandes des Français.
On va voir ça dans quelques instants. Avant cela, Asbel Lopez, sur la forme, vous aussi, vous avez été impressionné. Hein.
Oui, le président a fait une performance remarquable ce jour-là. Son parti, La République En Marche, a retrouvé son champion. Depuis qu'a éclaté l'affaire Benalla, il y a 6 mois, Macron était dans une très mauvaise séquence. Il avait grand besoin d'une prestation 20 sur 20 pour le départ du grand débat national qui va durer 2 mois. Il l'a eu.
Asbel, le président de la République était quand même parmi des maires, des élus de la République, des gens bien élevés, parfois un public gagné d'avance. En tout cas, ils savent se tenir, hein, ce qui n'est pas le cas des Gilets jaunes.
Eh oui, je vous le concède, c'est la limite de l'exercice. Les Gilets jaunes ne se chauffent pas du même bois. Ils sont la foule haineuse. C'est ainsi que le président a parlé d'eux, sans les nommer, le 31 décembre, ou en tout cas d'une partie d'entre eux. Mais vous avez peut-être remarqué que le président, dans sa lettre, a pris soin d'exclure le mot « haine » de son texte. Il parle désormais de colère. Il a écrit « Je sais que certains d'entre nous sont aujourd'hui insatisfaits ou en colère. » Et puis, vers la fin, « J'entends transformer avec vous les colères en solutions. » Il faut admettre qu'il a fait des efforts à l'écrit.
Venons-en à l'analyse politique de ces interventions. Vous le disiez, Lucia, le président français veut et doit impérativement renouer le lien avec ceux qui ont voté pour lui et aussi avec tous les autres Français.
Oui, car nous savons bien qu'avec ces débats nationaux, le président Emmanuel Macron essaye de se rapprocher des Français, un lien qui est en quelque sorte rompu selon la perception des Gilets jaunes. Aussi, il s'agit d'une tentative de répondre à une revendication assez courante lors des manifestations, on a vu la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Ils veulent pouvoir organiser des consultations populaires sur des thèmes de leur choix. Et dans sa lettre, Macron a dit qu'il s'exprimerait sur cela après la fin des débats en mars. Certains en ont tiré que le président pourrait peut-être accepter de faire un référendum. Et pour bon nombre de représentants de la majorité, ce serait même une bonne issue au débat et à cette crise des Gilets jaunes.
La question est donc de savoir si le président va réussir à transformer son essai. Asbel, d'ores et déjà, est-ce qu'on peut parler de renaissance?
C'est trop tôt, je pense. Je dirais plutôt qu'il s'éloigne du précipice, mais il reste en sursis. Cela étant dit, la dynamique est à nouveau de son côté. Le président a montré qu'au lieu de partir en voyage aux quatre coins du monde pour sauver la planète, il consacre désormais tout son temps et toute son énergie à résoudre les difficultés des Français. Il fait le job à la maison. C'est pourquoi les maires ont répondu à la fin de son intervention avec un standing ovation. Mais il faut des actions, pas seulement des mots. Car ce qui compte n'est pas seulement le texte, mais le contexte. Et de ce point de vue, la France est toujours empêtrée dans cette contestation inédite, longue, violente. N'oublions pas que demain, c'est encore samedi, Gilets jaunes, avec très probablement encore des violences.
Oui, la question est de savoir si cela suffira à ce que les Gilets jaunes ne manifestent plus, dans la rue comme ils le font depuis 10 semaines, ce grand débat et ces interventions d'Emmanuel Macron.
Des milliers de personnes vont peut-être sortir à nouveau pour demander, entre autres, la fin des privilèges. Les privilèges, par exemple, d'Alexandre Benalla, dont on vient d'apprendre qu'après le scandale de l'été, il n'avait pas rendu son passeport diplomatique. Les privilèges aussi de Chantal Jouanon, aux fonctionnaires payés plus de 14 000 euros bruts par mois. Jouanon devait s'occuper de coordonner le grand débat national, car elle préside la Commission nationale du débat public. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car elle a renoncé à ce rôle après le rejet des Gilets jaunes et scandalisé par son salaire. Même en parlant debout pendant 2 jours de suite, Macron aurait beaucoup de mal à convaincre que Jouanon et Benalla ne jouissent pas des privilèges qu'il faut commencer à abolir pour retrouver la paix sociale dans ce pays.
Alireza Malavzadeh, quel impact a tout cela sur les citoyens, l'ouverture de ce grand débat, ces interventions du chef de l'État français? Selon un sondage, près d'un Français sur deux a l'intention de participer à ce grand débat. Restera à savoir ce sur quoi il aboutira.
Ce qui est important, c'est l'aboutissement de ce débat. Car même si la participation est forte, on ne sait pas exactement ce que le gouvernement va faire à la fin. C'est un procédé inédit, non seulement en France, mais aussi, selon les historiens, dans le monde. On sait maintenant comment y participer. Les modalités sont bien définies, mais la question est de savoir comment ils vont collecter, classifier et synthétiser des millions de réponses, puis les énoncer. Et ensuite, même s'ils réussissent à les récapituler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que cela va aboutir à un référendum?
En tout cas, pour l'instant, c'est un débat, ce n'est pas un référendum, ce n'est pas non plus un plébiscite.
Et c'est là toute son ambiguïté. Dans un référendum où on pose une question précise aux citoyens et on leur demande une réponse par oui ou par non. Dans un plébiscite aussi, un homme au pouvoir demande à la population de lui manifester sa confiance ou de se prononcer par oui ou par non sur une décision importante. Mais là, on a affaire à un débat.
Un débat organisé donc autour de 4 thèmes, la transition écologique, la fiscalité, les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et puis l'organisation de l'État ainsi que des services publics.
Mais à travers les 35 questions qu'a posées le président dans sa lettre, c'est beaucoup. De plus, ce n'était pas le moment d'introduire la question de l'immigration dans ce débat. C'est vrai que cette question liée à celle de l'identité préoccupe certains Français, mais elle est non seulement complexe, mais aussi conflictuelle. C'est une boîte de Pandore. Poser cette question en lien avec celle de la laïcité montre bien qu'il y a un calcul politique.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce grand débat et ces interventions du président de la République. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Bienvenidos a este informativo de Radio France
Internationale. Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langues étrangères de RFI. La semaine prochaine est prévue une manifestation au Venezuela. Cela à l'appel du jeune président du Parlement, Juan Guaido. Il a 35 ans. Il faut savoir que le Parlement est l'unique institution aux mains de l'opposition au Venezuela. Asbel Lopez, cette manifestation sera-t-elle une manifestation de force, sachant que cela fait presque un an que les Vénézuéliens ne sortent plus massivement pour s'exprimer dans la rue?
Mais en fait, Guaido a entamé un bras de fer avec le président Maduro, considéré comme un dictateur par l'opposition. Et non seulement par l'opposition, plusieurs pays, dont la France, estiment que le Venezuela est devenu une dictature. Le 3 avril dernier, avant les élections qui ont consacré la réélection de Maduro, le président français a estimé que les conditions d'organisation de l'élection présidentielle ne permettaient pas un scrutin juste et libre. Il y a une semaine, néanmoins, Maduro a prêté serment pour un nouveau mandat. Ici à Paris, devant l'ambassade du Venezuela, plusieurs membres de l'opposition vénézuélienne se sont réunis pour protester.
Non, 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 non te reconocemos.
Quel est leur slogan?
Non, non, on ne te reconnaît pas. Et donc, même si le Venezuela traverse une situation économique catastrophique, 2019 semblait commencer sans problème politique interne majeur pour Maduro. C'est là qui entre en scène Guaido, le nouveau président de l'Assemblée nationale, le Parlement. Il dit, en somme, je peux conduire un gouvernement de transition. Oui, selon la Constitution, il y a un vide de pouvoir, car Maduro n'est pas légitime, il est un usurpateur. Moi, je peux conduire le pays à une transition vers la démocratie.
Alors cet homme, Juan Guaido, est-il en train de se présenter lui-même, finalement, comme président par intérim, en s'appuyant sur la Constitution? Est-ce qu'il tient compte d'ailleurs des forces politiques ou est-ce qu'il est naïf?
Eh bien, vous avez raison de poser la question. Maduro lui-même a lancé ironique cette phrase à Guaido. « Te voy a mandar la banda presidencial, muchachón, para ver lo que haces. » C'est-à-dire, tu n'es qu'un gamin, je vais t'envoyer l'écharpe tricolore pour voir ce que tu fais avec. Une ministre chaviste a promis déjà la prison à Guaido. D'ailleurs, il a été arrêté pendant une heure samedi dernier et libéré tout de suite après. Sauf que le muchachon n'est pas si naïf que ça. Guaido est conscient que son interprétation de la Constitution ne peut pas être le seul levier pour arracher le pouvoir aux chavistes. Il en faut plus que ça et il en est conscient.
Et il a besoin du soutien d'une partie de l'armée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Hein.
Oui, mais le Parlement qu'il préside a promis mardi une amnistie aux militaires qui refuseraient de reconnaître le deuxième mandat de Maduro. C'est inédit. Il a besoin aussi du soutien de la communauté internationale. Ça, il l'a largement. Il lui faut aussi le soutien massif de la rue, d'où l'appel à manifester mercredi prochain, le 23 janvier. Cette date est d'ailleurs symbolique, car le 23 janvier 58, c'est la date de la chute du dictateur Marcos Pérez Jiménez. Mais est-ce que Guaido va réussir à rassembler des millions de Vénézuéliens? Réponse mercredi prochain.
Oui, parce que les Vénézuéliens ont peur des manifestations. Il y a eu plus de 200 morts quand même. Hein. Des gens ont faim, il y a une pénurie d'aliments et de médicaments. Ça encourage d'un côté à manifester, de l'autre pas.
Oui, et le pari de l'opposition quand même, c'est que les gens n'ont plus rien à perdre. Qu'ils n'en peuvent plus. Alors, ils vont sortir massivement, même s'ils prennent des risques. Beaucoup de Vénézuéliens ont de nouveau de l'espoir. Et au-delà du résultat de cette manifestation, ce qui est sûr est qu'un nouveau chef de l'opposition est né au Venezuela. Il s'appelle Juan Guaido.
Et on verra bien ce que donne cette manifestation sur toutes les antennes de RFI. C'était Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Intéressons-nous à ce qui se passe au Brésil maintenant. Une des promesses phares de campagne du nouveau président devient réalité. Jair Bolsonaro, d'extrême droite, vient d'assouplir en effet les règles pour la possession d'armes à feu. Désormais, Lucien Mouzel, ceux qui le souhaitent auront plus facilement accès à un pistolet dans un pays où 45 000 personnes sont assassinées par balles tous les ans.
C'est fou, hein. Et la possession d'armes n'a jamais été interdite à tous les Brésiliens qui remplissent une série de conditions, comme n'avoir jamais été condamné au pénal, avoir un emploi et un domicile fixe, ainsi qu'avoir passé des tests physiques et psychologiques. Mais maintenant, la validité du permis sera doublée, voire triplée, au lieu de le renouveler, c'est difficile pour un Brésilien, tous les 5 ans, auprès de la police fédérale. Il faudra le faire tous les 10 ans. Et le permis accordé par l'armée sera aussi renouvelé tous les 10 ans, au lieu des 3 ans à ce jour. Bolsonaro a aussi promis que tous les processus administratifs sera facilité. Les représentants d'associations contre les armes disent que cela va stimuler plus de Brésiliens à s'intéresser aux pistolets, car c'est un cercle vicieux en fait. Plus le gouvernement en parle comme étant une bonne chose pour assurer sa sécurité et plus les règles sont assouplies, davantage de personnes s'y intéresseront. Il est important de distinguer la possession et le port d'armes à feu. Pour l'instant, les Brésiliens sont autorisés à en avoir à la maison afin de protéger leur foyer, mais le port d'armes à feu dans la rue, par exemple, reste interdit par la loi du désarmement qui a été signée en 2003.
Oui, cela dit, malgré cette loi, les chiffres de la criminalité ne cessent de grimper au Brésil. 70% des homicides sont causés par une arme à feu.
Oui, voici le paradoxe. Même avec les interdictions en vigueur, il y a énormément d'armes en circulation au Brésil, illégales comme légales, car beaucoup de Brésiliens ont une arme à la maison. Ils peuvent en avoir jusqu'à 6, c'est énorme. Et également, aujourd'hui, 6 armes sont vendues toutes les heures au Brésil. Le risque a toujours été que ces armes légales finissent aux mains des criminels, ce qui arrive très très souvent. Et un autre problème, c'est qu'avec une arme à feu à la maison, les risques d'accidents ou des crimes passionnels, par exemple, sont fortement accrus. La plupart des acheteurs, ce sont des hommes à la quarantaine, blanc et appartenant à la classe moyenne. Yvan Marc, qui est le directeur de l'Institut Sauda Paz, je suis pour la paix, il nous décrypte ce profil.
O grande problema nisso tudo é que as estatísticas criminais mostram que
Alors, quelles sont les explications
Le problème pour lui, c'est que les statistiques des crimes nous montrent que le profil type des acheteurs d'armes est le même des auteurs de violences conjugales ou harcèlement à la maison. Mais avec une arme à feu à la main, ces violences peuvent vite dégénérer vers un crime beaucoup plus grave. Et aussi, les accidents domestiques graves avec des enfants, par exemple, ce sont très courants.
Jair Bolsonaro a-t-il été toujours très enthousiaste avec les armes?
Rappelons-nous, c'est un ancien militaire et avant d'être président, Bolsonaro a été élu 7 fois député. Il soutenait le fameux Front parlementaire BBB, ce qui veut dire balle, bœuf et bible. Ce sont ces députés qui votent pour les armes, pour l'agriculture intensive et la religion. Bolsonaro est tellement pour le port d'armes qu'il imite un pistolet avec ses mains quand il est très content. C'est devenu même sa marque de fabrique pendant la campagne électorale. Et c'est pour ça qu'on attend donc davantage de changements dans la loi sur le désarmement. Comme par exemple l'autorisation du port d'armes dans les rues, ce serait très très inquiétant.
Hein. Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne, j'ai l'impression que vous parlez autant de Trump que de Bolsonaro.
C'est vrai.
Mercredi, c'était le 40e anniversaire du départ pour l'exil du dernier Shah d'Iran et de son épouse Farah Diba. Sous la pression de la rue, Mohammad Reza Shah Pahlavi, après 37 ans de règne, quittait, les larmes aux yeux, son pays pour ne jamais y revenir. Ali Reza Manavzadeh, peut-on dire qu'il était conscient à l'époque du fait que son départ serait définitif, qu'il ne reviendrait jamais dans son pays ?
Si on se réfère littéralement à ce qu'il a dit lors de son départ, la réponse est non. Il est certain que pour la plupart des Iraniens de cette époque, son départ était définitif. Mais une partie de la population espérait voir réussir le gouvernement de Bakhtiar qui venait d'obtenir le vote de confiance du Parlement. En tout cas, Bakhtiar et les membres de son gouvernement, et peut-être le Shah lui-même, croyaient que la sauvegarde de la monarchie était possible. Sinon, ils n'auraient pas accepté de constituer un gouvernement dans une telle situation. Quant à l'aéroport, les journalistes interrogent le Shah sur la raison de son départ. Il répond brièvement et dit
Il a donc dit
Depuis un certain temps, je me sens fatigué et j'ai besoin de me reposer. En plus, j'avais dit que lorsque je serai rassuré sur la prise en charge des affaires du pays par le gouvernement et que j'aurai donc l'esprit tranquille, je partirai en voyage. Et quand le journaliste lui demande pour combien de temps son Excellence envisage de partir, il répond « Ça dépend de mon état de santé. Je pense que pour me reposer, nous irons d'abord à Assouan. »
Ça veut donc dire qu'il était conscient de son exil malgré tout, s'il avait les larmes aux yeux.
Justement, c'est par la prise en considération de cet état éléments comportementaux que ses propos lors de son départ prennent un autre sens. D'ailleurs, il savait qu'il était gravement malade.
Aujourd'hui, quel regard portent les jeunes Iraniens sur cet événement, le départ du Shah ?
Les études sociologiques montrent que les jeunes générations, dans leur ensemble, rejettent le régime actuel. De nombreux jeunes pensent que leurs parents ou grands-parents ont commis une faute impardonnable en participant à une révolution dont le leadership était dès le début assuré par le clergé chiite.
Et est-ce que parmi les jeunes, il y a un engouement pour le régime impérial ? Autrement dit, est-ce qu'on assiste à une réhabilitation de ce régime du Shah ?
Évidemment, il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, la situation déplorable du pays sous le régime islamique réhabilite automatiquement l'époque du Shah. Deuxièmement, les jeunes qui n'ont pas vécu cette époque ont tendance à l'idéaliser.
Merci. Troisièmement, et très 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 vite, il nous reste 3 secondes.
Troisièmement, il n'y a pas d'opposition crédible au régime actuel. Et quatrièmement, les
Merci
Iraniens ont
Ali
un lien
Reza
affectif
c'était
avec
Accent
leur histoire.
Du monde.